Gloire à Dieu. On est en train de continuer l'étude dans Jacques, où on est rendu au chapitre 3, les versets 13 à 16. Puis le sujet qu'on est en train de voir, ça fait deux, trois messages qu'on fait sur ce sujet-là, c'est au niveau de la langue. Mais ce soir, ça parle aussi au niveau de la langue, mais aussi au niveau des œuvres. Puis le Seigneur, il veut nous parler, je sais que il va me parler, il me parle déjà parce que je l'ai préparé le message, puis je suis déjà dans mon esprit en prière pour vivre ces choses-là. Mais qu'est-ce qu'il veut nous communiquer? Il veut que tout le monde le vive. Si c'était écrit là, c'est parce qu'il veut que tout le monde le vive. Puis les chrétiens dans ce temps-là avaient besoin d'entendre ces choses-là, puis je pense aussi que les chrétiens d'aujourd'hui ont besoin d'entendre ces choses-là. Dans Jacques chapitre 3, les versets 13 à 16, ça va nous parler, le titre du message de ce soir, c'est « La langue et les œuvres exprimées par la douceur ». Est-ce important pour les chrétiens de parler avec douceur?
Ça a
un impact quand on parle, puis qu'on n'est pas dans la douceur. Si on est dans la douceur, ça a un impact, mais si on n'est pas dans la douceur, ça a un autre impact. Puis ça fait un effet contraire de ce qu'on n'aurait pas amené de positif en étant doux, en passant un message doux. Parce que doux, ça s'entend bien, puis ça se reçoit bien. Mais si c'est rough, puis c'est toujours avec agressivité, c'est pas normal. Il y a quelque chose là. Nous allons voir l'importance de faire attention à notre manière de parler afin de toujours démontrer dans quel esprit nous marchons. Je peux dire à tout le monde, je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien, puis l'écrire ici sur mon chandail, je suis chrétien, mais l'écrire sur le devant de mon chandail, je suis chrétien, mais l'écrire dans le dos aussi, je suis chrétien. Je peux l'écrire sur une pancarte en plus, me promener. Mais c'est-tu vraiment les titres extérieurs qui vont démontrer que je suis un chrétien?
Non.
C'est notre manière de vivre. Elle parle notre manière de vivre. Je sais qu'on n'est pas parfait, qu'il n'y a pas personne de parfait, mais on vise la perfection. Si on vise la perfection, il faut en parler. Si le Seigneur veut changer ça dans nos vies, c'est parce que c'est important. Dans Jacques chapitre 3, le verset 13, on va aller les lire à partir du verset 13 jusqu'à 16. « Lequel d'entre vous est sage et intelligent? » Levez votre main, ceux qui... Toi, il n'y a pas personne qui lève sa main. Mais moi, c'est parce que là, je veux vous inciter à lever votre main. « Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. » Il pose la question, qui est sage, mais qu'il montre ses œuvres avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Car là où il y a un zèle amer, il y a un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. J'ai-tu un amen?
Amen.
J'ai-tu un ouch?
Amen.
La sagesse n'est pas seulement dans les langages bien articulés ou par le don de paroles de sagesse, parce qu'un don spirituel, c'est des paroles de sagesse. Le Saint-Esprit donne une révélation à quelqu'un, puis il donne cette parole-là qu'il vient de recevoir, puis c'est une parole de sagesse qui amène les gens à prendre la meilleure décision pour une décision qu'ils ont à prendre. Une sagesse inspirée de Dieu sur un moment. Puis il y a aussi la sagesse quand les gens s'expriment, puis ils font des discours, puis c'est tellement élogieux, puis avec des mots, une pièce et quart. Puis là, des grandes affaires, ça a la sagesse du langage, la verbalisation professionnelle, disons la sagesse du langage. La sagesse, c'est pas juste la sagesse du langage, ni la sagesse des révélations de Dieu. La sagesse, dans Jacques 3, Parce que c'est ça qu'on veut bien comprendre, que lequel d'entre nous qui est sage et intelligent, on est supposé. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc, veux pas, si tu crains Dieu, tu as commencé à être sage. S'il dit, lequel d'entre vous est sage et intelligent, ben on a tous commencé à être sage. On va lever notre main parce qu'on a la crainte de l'Éternel. On commence, c'est le commencement de la sagesse. Mais là, après ça, c'est le cheminement avec l'Esprit Saint pour être changé, pour arriver à vivre dans la sagesse. Pas juste en discours, pas juste en inspiration de paroles de sagesse inspirées par le Saint-Esprit, mais ça doit être vu dans une conduite douce qui provient de la sagesse de Dieu. Parce que quand tu vas être rempli de la sagesse de Dieu, ça a un impact sur ta vie. Les gens vont remarquer que t'es pas comme, je te dis pas que tu es rendu parfait, mais tu vises la perfection. Tu peux t'échapper, tu peux avoir des sauts d'humeur, mais ta vie n'est pas toujours dans l'agressivité, dans l'amertume, dans frappe force tout le monde que tu rencontres sur le long de ton chemin, parce que tu sais, comme si tu étais un frustré, puis tu veux te revenger sur tout le monde. Ça, c'est le contraire de la douceur. Parce qu'il faut être capable de parler de douceur aux gens. Il y a des moments, peut-être, que là, tu vas être émotivement affecté, puis tu vas peut-être, ça va, la pression va monter. Ça, c'est un moment passager. Mais en général, notre vie doit être paisible, douce, un caractère doux et paisible. Puis là, Jacques, il dit au chapitre 3, le verset 13, il dit, lequel d'entre vous est sage et intelligent? Puis on commence, il faut l'avouer, on commence à l'être parce qu'on craint Dieu. Mais là, il nous dit, peut-être tu penses sage et intelligent, ben montre-les. Il dit qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Ça veut dire qu'un chrétien doit entrer dans ce chemin-là, que sa vie soit alimentée par la douceur, parce que c'est la sagesse de Dieu qui va agir à travers lui, puis il va se retenir des fois. Des fois, il parlera pas, des fois, il va embarquer dans la conversation, des fois, tu n'as pas le choix de régler une affaire. Mettons, je suis en train de chauffer un autobus, il y a 60 élèves en arrière, puis il y en a qui s'énervent, tu n'as pas le choix de lâcher un cri. Tu n'as pas le choix, ils t'entendent pas, tout le monde crie dans l'autobus. Ça arrive des moments où tu prends l'autorité, puis tu lâches un cri au jeune, tu lui dis de s'asseoir. Mais c'est pas un manque de sagesse, mais perte de contrôle, puis être agressif, puis être amer, puis vivre en frappant tout le monde, ça, c'est pas la sagesse de Dieu. L'attitude et ou le caractère d'un chrétien doit être surveillé. On doit veiller sur notre attitude, veiller sur notre caractère. Des fois, on peut s'emporter et on n'a pas réalisé, wow, il faut se reprendre en guide. Tu sais, la maîtrise de soi, c'est encore le Saint-Esprit qui nous amène là. Ça veut dire qu'il y a des moments que tu aurais peut-être eu le goût de crier ou d'embarquer, puis d'être agressif, puis d'être sévère. Peut-être que ça n'en prenait, mais peut-être que non aussi. Puis peut-être qu'il faut se retenir, puis peut-être qu'il faut rien dire. Il y a des moments pour rien dire. Tu vas avoir plus d'effet si tu dis rien que si tu te mets à crier, puis à frapper tout le monde. Pour démontrer un bon témoignage de chrétien, on est au travail, on veut évangéliser. Comment je vais donner un bon témoignage si je suis toujours agressif, colérique, puis amer, puis critiquer sur tout, puis être méchant, puis être dur? Comment je vais donner un bon témoignage pour que les gens disent, ça, c'est un bon chrétien? Ils vont dire plutôt, c'est pas vivre, il a pas appris à vivre. Mais si nous, on se dit qu'on est la lumière du monde, quel genre de caractère qu'il faut avoir dans ces moments-là? Ça nous dit, on doit apprendre à s'exprimer avec douceur. C'est peut-être pas automatique, peut-être qu'on a des frustrations, peut-être qu'on a besoin de guérison intérieure, peut-être qu'on réalise pas qu'est-ce qu'on est en train de faire, puis de la manière qu'on parle, mais faut travailler sur notre caractère, puis de s'auto-évaluer, puis de regarder où ce qu'on en est, puis de faire attention. Parce qu'on a un témoignage à donner. On rencontre des gens, puis ces gens-là, ils ont besoin de voir Jésus en nous. Puis pour voir Jésus en nous, il faut qu'ils voient la sagesse de Dieu, la douceur. Voyez-vous? Il dit dans Philippiens 4:5, que votre douceur soit connue de tous les hommes, que Paul dit dans un autre passage. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Les gens devraient nous connaître comme, ça c'est un gars qui est doux. Je dis pas qu'il s'est jamais emporté. Jésus avec, il a eu des moments qu'il a répondu sec. Il a pas perdu le contrôle. Comme qu'il y en a qui pensent qu'il s'y met en colère dans le temple quand il a frappé le monde puis il fait sortir les brebis. Dans la Bible, il y a des commentaires bibliques qui est écrit « Jésus s'y met en colère ». Mais dans le texte, il n'y a aucun texte de la Bible qui dit que Jésus s'y met en colère. C'est le commentaire biblique qui disait ça. Puis il m'avait induit en erreur ce commentaire-là parce que je pensais que Jésus s'était mis en colère dans le temple. Mais jusqu'à temps que j'analyse ces versets-là, Jésus, il n'y a aucune place dans la Bible, dans le Nouveau Testament, qui dit que Jésus s'est mis en colère.
Il
n'a
jamais péché.
Ben, la colère n'est pas un péché. Ça dit dans la Bible, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. La colère n'est pas un péché, mais la colère ouvre la porte au péché.
Salut.
Bonjour tout le monde.
Fait que pour démontrer un bon témoignage, quand tu veux évangéliser quelqu'un, mais c'est important que les gens remarquent votre douceur. C'est un fruit de la sagesse de Dieu. C'est un signe que la sagesse de Dieu est en train d'agir en vous. Et si vous vous échappez, mais demandez de la sagesse à Dieu, c'est ça qu'il nous dit. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Puis elle lui sera accordée. Dieu va t'en donner. Puis les fruits de l'esprit, la douceur est dans les fruits de l'esprit. Alors c'est justement la prochaine idée que je vais parler. La douceur, c'est une caractéristique de la présence de l'Esprit de Dieu. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas vivre la douceur. Tu vas être doux. Fait que si t'es ta mère, puis tu critiques, puis tu te sens comme si tu veux tout casser, c'est pas le Saint-Esprit qui fait ça. Ça nous dit que c'est la sagesse charnelle, la sagesse humaine qui fait ça. Parce que l'Esprit de Dieu, son fruit, ça va être de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, de la fidélité, de la douceur, de la maîtrise de soi. C'est des fruits. C'est le fruit de l'Esprit. Quand une personne est remplie du Saint-Esprit, ça va se dégager de sa vie. Puis s'il est dans un zèle amer ou un esprit de dispute, c'est un autre esprit qui se manifeste. Voyez-vous? Notre témoignage, quand on parle du Seigneur, doit toujours être donné avec douceur. Parce que tu veux convaincre les gens. Puis c'est pas en tapant sur les personnes que tu vas les convaincre. C'est une parole douce. Ça va même calmer la fureur qu'un verset de l'Ancien Testament nous dit. Tu vas dire une parole douce, l'autre est en colère, il est pompé. Tu réponds avec douceur, tu es en train de le désamorcer. Si tu embarques dans son affaire, c'est comme si ça s'amplifie. Ça devient une explosion plus en plus grosse. Dans 2 Timothée 2:25, ça nous dit qu'un serviteur du Seigneur ne doit pas avoir de querelle, ne doit pas avoir de chicane, doit pas avoir... Il faut éliminer ça de notre vie. Je ne dis pas que ça arrive jamais, mais il faut que ça arrête. On ne doit pas entretenir ce qui va contaminer tout le monde, parce qu'on va le voir dans d'autres versets, quand tu es rempli d'un zèle amer, non seulement que toi, tu vas vivre dans le désordre puis dans toutes sortes de mauvaises manières de vivre, mais en plus, tu vas contaminer les autres en parlant. Un serviteur du Seigneur, il doit redresser avec douceur les adversaires. L'autre t'ostine, l'autre t'entraîne. Il n'y a pas de l'air à vouloir admettre ce que tu dis. C'est pas en t'ostinant, puis en pognant un nerf, puis en te choquant que tu vas l'amener à comprendre ce que tu essaies d'y expliquer. C'est en y parlant avec douceur. Tu y parles doucement, puis là, ça va avoir un impact. Il va réfléchir à ce que tu as dit. Si tu parles trop sec, ça va être comme un mur, puis ça va ricocher, ça rentrera pas. Il faut parler avec douceur, puis on doit espérer que Dieu va lui donner la repentance pour revenir à la vérité. C'est pour ça qu'il faut toujours examiner, vérifier ce qui nous anime, notre attitude ou notre comportement, notre parole, notre sentiment, qu'on a des sentiments, des émotions qui nous animent, puis des fois, on s'en rend pas compte, puis on parle sous l'effet de la colère. Il y en a qui vont même parler sous l'effet de la jalousie. Tu parles pas des belles paroles quand t'es sans colère. D'habitude, sans colère, ça va être... quand t'es pas chrétien, surtout. Mais quand t'es chrétien, t'as pas le droit de te laisser aller à des mauvaises paroles. Là. T'as une émotion, faut que t'agères ton émotion. Faut que tu demandes au Seigneur de t'aider... Puis tu te calmes, tu respires par le nez, comme qu'on dirait. Dans Jacques, vu qu'il faut toujours vérifier ce qui nous anime, dans Jacques 3, le verset 14, dans les versets qu'on est en train d'étudier, « Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. » Un zèle amer, c'est... T'as de l'empressement, mais c'est l'amertume qui t'amène à être empressé. Empressé à quoi? À vouloir te revenger, à vouloir y remettre ses coups, à vouloir parler dans son dos. C'est quoi qui nous pousse? C'est-tu parce qu'on est rempli de douceur et de l'amour du Seigneur que ça nous pousse à dire de belles paroles? Oui. Mais si on veut... On a juste à s'écouter et à se regarder, puis on va se rendre compte assez rapidement que c'est pas le Saint-Esprit qui nous mène, c'est pas la sagesse de Dieu. C'est de l'agressivité, de l'amertume, vouloir frapper, vouloir... Puis là, on donne des mauvaises paroles, puis on pense qu'on a accompli la justice, que c'était bien qu'est-ce qu'on vient de faire. Pas du tout. On vient de casser tout le témoignage que Dieu voulait construire. Puis il y a aussi l'esprit de dispute. Quand on est en train de jaser, il faut écouter, il faut regarder dans quel esprit qu'on parle. Puis si c'est dans le but de « il me l'a dit une, j'en redis une », puis là on échange, puis c'est de la chicane qui est en train de pogner. Mais c'est l'esprit de dispute qui est en train d'agir. L'esprit de dispute n'est pas le Saint-Esprit. C'est un autre esprit qui sait qu'on a cette faiblesse-là, puis il rentre dans notre maison, puis il sert de l'autre, puis là, on dit, c'est l'autre qui a commencé. Oui, mais c'est qui le deuxième qui a embarqué? C'est nous. Faut veiller, faut faire attention, parce que si on s'en laisse emporter dans ces émotions-là, on va dire plein d'affaires qu'on n'aurait pas dit étant rempli de douceur dans la sagesse de Dieu. L'amertume va être répandue parmi tous et avoir l'apparence d'une église de frustrés. Si on est animé d'un zèle amer et d'un esprit de dispute dans l'église, entre frères et sœurs, mais l'église va avoir de l'air d'une église de frustrés. On n'attirera pas les gens à venir à l'église. S'il y en a un qui rentre, puis on part, puis on y raconte tout ce qu'il y a, ce qu'on a, nos frustrations qu'on a entendues de l'autre. Fait que là, l'autre, il vient d'être contaminé de tout ce qu'on vient de se domper dans ses oreilles. Parce que ça se transmet, cet esprit-là, de dispute, puis de trouble, puis d'agressivité, puis de méchanceté, se transmet dans les mots qu'on transporte, qu'on y donne. Que si on parle dans le dos de l'autre, puis qu'on en met... Mais l'autre a tout écouté, mais est aussi animé du même du même esprit qu'on vient d'y transférer. Puis après ça, l'autre va en parler à l'autre, puis l'autre va être encore animé de ça, qui va répandre ça à l'autre. L'Église, ça, quand l'Église entière est contaminée, mais ça va être l'air d'une Église remplie de frustrés. Puis il y en a de ça, puis il y a toujours des chicanes, puis toujours des frictions, puis toujours du monde qui s'accroche dans l'Église, puis là, qui pète les plombs. Il va en avoir... C'est ça qui se passe quand que l'esprit de dispute est rentré dans une Église. J'en ai vu des Églises qui avaient ces problèmes-là, qui ont besoin d'une délivrance. Dans Hébreux 12, 15, ça nous dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » L'amertume, ça se transpose. Fait qu'il faut pas marcher dans un zèle amer. Faut marcher dans la douceur de la sagesse de Dieu. Dans notre relation des uns avec les autres, la douceur doit ressortir. Alors, si on n'a pas appris à parler avec douceur, ça s'apprend. Comment? Tu la demandes à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche. Il va te donner sa sagesse, puis tu vas être capable de parler aux autres avec douceur. Si tu ne l'as pas, fais-toi-en pas, Dieu savait que tu ne l'avais pas, puis nous aussi, on le savait. On le savait. Tout le monde le sait quand on ne l'a pas. C'est pour ça que ça... Il y a un départ quelque part. C'est pour ça que Dieu dit dans Jean, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera accordée. Dieu, il ne te fera pas un reproche de lui demander sa sagesse. Il veut que tu l'aies. Fait que demandons-la. Puis s'il y en a un qui se pense trop sage ce soir, puis il se dit, ben moi, je ne le demande pas, je n'ai pas besoin, je l'ai déjà, t'en as besoin parce que tu penses comme ça. Parce que la sagesse de Dieu va t'amener dans l'humilité, puis à pas te penser si bon que ça, puis à toujours penser que tu as besoin de la sagesse de Dieu. T'en auras jamais trop. Demande-la pareil. Continuons à demander la sagesse de Dieu. On a besoin. Dans Tite 3.2, ça nous dit de ne médire de personne. Médire, c'est pas calomnier. Calomnier, c'est dire des menteries dans le dos. Médire, c'est de dire des vérités dans le dos. Fait que, j'ai juste dit la vérité, mais quand tu te dis la vérité à l'autre, c'est que pour y dire comment l'autre, c'est ainsi, c'est ça, puis il a pas fait ci, il a pas fait ça, ou il t'a fait ci, il t'a fait ça, puis tu dis ça dans un esprit de dispute, d'amertume. Ça se transmet. Tu vas contaminer l'autre. Mais on n'a pas le droit, selon Dieu, de médire les uns des autres, mais d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Amen. Souvent, on se croit sage parce qu'on connaît le Seigneur. C'est vrai. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Mais des fois, on se croit sage parce qu'on connaît le Seigneur. Mais si nous ne sommes pas doux, nous marchons dans la sagesse charnelle, puis même diabolique, c'est ce que Jacques est en train de dire, Jacques 3.15. Cette sagesse, elle n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Fait que ce qu'on veut, c'est pas marcher dans la sagesse humaine, c'est de marcher dans la sagesse de Dieu. Fait qu'il faut apprendre à marcher dans la douceur. Si l'énergie qui nous anime, c'est l'amertume, tout notre travail sera considéré mauvais par Dieu. Job 3.16, il dit, « Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. » Quand c'est un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Fait que si on est animé de tout là, notre travail, ça vaut rien pour Dieu. On est tous bien d'arrêter cela, puis de prendre une pause, puis de rester assis. Ça va être encore mieux pour récupérer puis prier que de continuer à faire notre travail en critiquant et en chiolant. Demandons la sagesse d'en haut afin d'avoir un caractère de chrétien. dans la douceur, dans l'amour, paisible. Amen. Jacques, comme je l'ai mentionné tantôt, il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Prions. Seigneur, je remercie pour ta parole qui nous exhorte à la sagesse d'en haut pour qu'on marche dans l'amour sur cette terre. Seigneur, c'est pas en nous à tous les jours. Puis je te demande qu'à tous les jours, tu nous donnes cette sagesse qui vient d'en haut pour être capable de se maîtriser, de se contrôler, de veiller sur nos pensées, nos paroles, puis nos sentiments, puis qu'on puisse aussi avoir la maîtrise de soi qui vient de ton Saint-Esprit. On veut en tout temps, en tout lieu, toujours marcher dans la douceur. Apprends-nous. Et qu'on laisse pas l'ennemi venir prendre nos pensées, puis nos sentiments, puis nos émotions, puis notre bouche, pour dire de mauvaises choses sous l'effet de l'esprit de dispute ou de l'amertume. Qu'on marche dans la douceur, la maîtrise de soi. Que ton Saint-Esprit nous y amène, Seigneur. Puis merci de ce que tu vas faire. Et pardonne-nous de toutes les fois qu'on a tombé dans ces choses, puis qu'on a été un mauvais exemple. Pardonne-nous et purifie-nous par le sang de Jésus. Merci, Seigneur, de ce que tu vas faire en nous. Nous nous confions en toi, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.